Aujourd'hui, je vais vous lire La découverte suprême, commentée par Mère, dans le livre Paroles d'autrefois. La découverte suprême. Si nous voulons progresser intégralement, il nous faut ériger en notre être conscient une synthèse mentale forte et pure qui puisse nous servir de protection contre toutes les tentations du dehors, de points de repère pour nous éviter tout détour, de phare pour éclairer notre route sur l'océan mouvant de la vie. Chacun doit construire cette synthèse mentale suivant ses propres tendances, ses propres affinités, ses propres aspirations. Mais si nous la voulons vraiment vivante et lumineuse, il faudra qu'elle ait à son centre l'idée qui est la représentation intellectuelle, symbolique de ce qui est au centre de notre être, de ce qui est notre vie et notre lumière. Cette idée, exprimée en paroles sublimes, a été enseignée sous des formes diverses par tous les grands instructeurs à travers tous les pays et tous les temps. Le moi de chacun et le grand moi universel ne sont qu'un. Tout ce qui en étant de toute éternité dans son essence et son principe, pourquoi distinguer entre l'être et son origine, entre nous-mêmes, et ce que nous plaçons au commencement? C'est avec raison que d'anciennes traditions disaient « Nous et notre origine, nous et notre Dieu, nous sommes un ». Et cette unité doit s'étendre non point comme un simple rapport d'union plus ou moins étroite et intime, mais comme une identité véritable. Ainsi, quand il essaie de remonter de proche en proche jusqu'à l'inaccessible, l'homme qui cherche le divin oublie que toute sa connaissance et toute son intuition ne sauraient lui faire un pas dans cet infini. Il ne sait pas que ce qu'il veut atteindre, que ce qu'il croit si loin de lui, est en lui. Et comment pourrait-il savoir quelque chose de l'origine tant qu'il ne prend pas conscience de cette origine en lui-même? C'est en se comprenant lui-même, en apprenant à connaître, qu'il peut faire la découverte suprême et émerveiller, s'écrier, comme le patriarche dont parle la Bible: c'est ici la maison de Dieu, et moi je ne le savais pas. C'est pourquoi il faut exprimer la pensée sublime, créatrice des mondes matériels, faire entendre à tous la parole qui remplit les cieux et la terre. Je suis en toutes choses et en chaque être. Quand tous sauront cela, le jour promis des grandes transfigurations se rapproche. Quand dans chaque atome de la matière, les hommes reconnaîtront la pensée de Dieu qui l'habite. Lorsque chaque créature vivante s'apercevront de l'ébauche d'un geste de Dieu. Lorsqu'en chaque homme, son frère, saura voir Dieu. Alors l'aube naîtra, chassant les ténèbres, les mensonges, les ignorances, les fautes et les douleurs qui accablent la nature entière. Car la nature entière souffre et gémit, en attendant que les fils de Dieu se réveillent et se révèlent. C'est bien la pensée centrale, celle qui résume toutes les autres, celle qui devait être toujours présente dans notre souvenir comme un soleil qui illumine toute la vie. C'est pourquoi je vous la rappelle aujourd'hui, comme si nous poursuivons sur notre route en emportant dans notre cœur cette pensée, comme le joyau le plus rare, le trésor le plus précieux. Si nous lui faisons faire son œuvre d'illumination, de transfiguration en nous, nous saurons qu'elle est vivante au centre de notre être et en toute chose. Et elles nous sentiront cette merveille unité de l'univers qui est en nous. Alors, nous comprenons combien vaines et enfantines sont nos propres et pauvres satisfactions. Alors, nous comprenons combien vaines et enfantines sont nos propres et pauvres satisfactions. Nos sottes disputes, nos mesquines passions, nos indignations aveugles. Nous verrons se dissoudre nos petits travers, tomber les derniers retranchements de notre personnalité bornée, de notre égoïsme inintelligent. Nous nous sentirons emportés dans ce sublime courant de spiritualité vraie qui nous fera sortir de nos cadres limités et de nos étroites frontières. Le moi individuel et le moi universel ne sont qu'un en chaque monde, en chaque être, en chaque chose, en chaque atome et la présence divine. Et l'homme a pour mission de la manifester. Pour cela, il y faut prendre conscience de cette présence divine en lui. Certains, pour y parvenir, ont besoin d'un véritable apprentissage. Leur être égoïste est trop absorbant, trop fixe, trop conservateur, et la lutte contre eux cet aspect est longue et douloureuse. D'autres, au contraire, plus impersonnels, plus plastiques, plus spiritualisés, entrent facilement en contact avec la source inépuisable, divine de leur être. Mais cela aussi, ne l'oublions pas, doivent quotidiennement, constamment se livrer à un méthodique travail d'adaptation, de transformation, afin que rien en eux ne vienne plus obscurcir le rayonnement de cette pure lumière. Mais comme le point de vue change dès que l'on atteint cette conscience profonde, comme la compréhension s'élargit, comme la bienveillance s'accroît, il y a un sage qui dit « Je voudrais que chacun de nous, en vain, au point d'apercevoir le Dieu intérieur qui réside lui-même dans le plus vil des êtres humains. Au lieu de le commander, nous dirions, surgis, être resplendissant, toi qui es toujours pur, qui ne connais ni la naissance ni la mort, surgis, tout-puissant, et manifeste ta nature. » Conformons-nous à cette parole et nous verrons tout se transformer comme par miracle autour de nous. Voilà l'attitude de l'amour vrai, conscient, perspicace, de l'amour qui sait voir derrière les apparences, comprendre malgré les mots, et qui, à travers tous les obstacles, communie constamment avec les profondeurs. Que pèsent nos impulsions et nos désirs, nos angoisses et nos violences, notre souffrance et nos luttes, toutes ces péripéties intimes dramatisées intimement par notre imagination déréglée, qui pèsent telles devant ce grand et ce sublime, ce divin amour penché sur nous du plus profond de notre être. Indulgent à nos faiblesses, redressant nos erreurs, cicatrisant nos plaies, baignant notre être tout entier de ses effluves régénérateurs. Car la divinité intérieure ne s'impose jamais, ne réclame point, ne menace point, elle s'offre, elle se donne, elle se cache, elle s'oublie, au sein des êtres et des choses. Elle ne blâme point, elle ne juge pas, ni ne maudit, ni ne condamne, mais elle est à l'œuvre sans cesse pour perfectionner sans contrainte, réparer sans reproche, pour encourager sans impatience, pour enrichir chacun de nous comme tous les trésors qu'il peut recevoir. Elle est la mère dont l'amour enfante et nourrit, garde et protège, conseille et console. Elle comprend tout, c'est pourquoi elle supporte tout. Elle excuse et pardonne tout. Elle espère et prépare tout. Pourtant, tout en elle, elle n'a rien. Ne soient tous. Je répète, c'est très important. Pourtant, tout en elle, elle n'a rien qui ne soit tous, y compris ceux qui veulent pas. Et parce qu'elle règne sur tous, elle est la servante de tous. C'est pourquoi ceux qui font petit ou grand, veulent être roi avec elle et Dieu avec elle, se font comme elle, non point despotes, mais serviteurs parmi leurs frères. Qu'il est beau et humble ce rôle de serviteur, ce rôle de tous ceux qui furent des manifestateurs, des annonciateurs du divin, qui est en tous du divin amour animant toutes choses. Et en attendant de pouvoir suivre leur exemple et de devenir comme eux, des vrais serviteurs, laissons-nous pénétrer par ce divin amour, transformé par lui. Donne-lui tout sans restriction, ce merveilleux instrument, ce merveilleux instrument, qu'est notre organisme matériel. Il lui faudra produire son maximum dans tous les plans d'activité. Pour arriver à cette totale consécration de nous-mêmes, tous les moyens sont bons, toutes les méthodes ont leur valeur. La seule chose tout à fait indispensable est la persévérance dans la volonté d'atteindre ce but. Car alors, toutes les études que l'on fait, tous les actes que l'on accomplit, tous les êtres humains que l'on rencontre viennent nous apporter une indication, une aide, une lumière pour nous guider sur le chemin. Avant de terminer, pour ceux qui ont déjà beaucoup d'efforts infructueux en apparence, pour ceux qui ont fait connaissance avec les embûches sur la route, qui ont mesuré leur faiblesse, pour ceux qui risquent de perdre confiance et courage, j'ajouterai ces pages. Destinées à réveiller l'espoir au cœur de ceux qui souffrent, elles ont été écrites par un travailleur spirituel, un ouvrier divin, au moment où toutes les épreuves fondaient sur lui comme des flammes purificatrices. Vous qui êtes là, abattu, meurtri, vous qui tombez, vous qui croyez, qui vous croyez vaincu, écoutez la voix d'un ami. Et connaissez, il connaît vos tristesses, il les a partagées, il a souffert ainsi que vous, tous les maux de la terre. Il a, comme vous, traversé tous les déserts sous le fait du jour. Il sait ce que sont la soif et la faim, la solitude et l'abandon, le dénuement du cœur plus cruel que les autres. Hélas, il sait aussi ce que sont les heures de doute. Il connaît les erreurs, les fautes et toutes les défaillances. Mais il vous dit, écoutez la leçon que chaque matin apporte la terre. Dans ses rayons du soleil, ses premiers rayons du soleil, levant. C'est une leçon d'espoir, un message de consolation. Vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui tremblez, n'osez prévoir le terme de vos maux, l'issue de vos douleurs, regardez. Il n'est pas de nuit sans aurore, et l'aube se prépare quand l'ombre s'épaissit. Il n'est pas de brouillard que le soleil n'efface, pas de nu qu'il ne dort, pas de pleurs qu'il ne sèche un jour, pas d'orage après lequel ne rayonne son arc triomphal. Il n'est de neige qui se fonde, ni d'hiver qui ne change en printemps radieux. Et pour vous non plus, il n'est pas d'affliction qui ne produise son poids de gloire, pas de détresse qui ne puisse être transformée en joie, de défaite en victoire, de chute en ascension plus haute, de solitude en foyer de vie. De désaccord en harmonie. Parfois, c'est le malentendu de deux esprits qui oblige deux cœurs à s'ouvrir pour communier. Il n'est pas enfin d'infinie faiblesse qui ne puisse se changer en force. Et même, c'est dans la faiblesse suprême qu'il plaît à toute la puissance de se révéler. Écoute, mon petit enfant, je te sens aujourd'hui si brisé, si déchu peut-être, qui n'est plus rien pour couvrir ta misère et nourrir ton orgueil. Jamais encore tu n'as été plus grand. Écoute, mon petit enfant, qui te sens aujourd'hui si brisé, si déchu, qui n'a plus rien pour couvrir sa misère et nourrir son orgueil. Jamais encore tu n'as été plus grand. Comme il est près des cimes celui qui s'éveille dans les profondeurs, car plus l'abîme s'approfondit, plus les hauteurs se révèlent. Tu sais cela, que les forces les plus sublimes des extensions cherchent pour se vêtir des voiles les plus opaques de la matière. Oh, les noces splendides du souverain amour et les plus obscures plasticités du désir de l'ombre avec la plus royale lumière. Si la faute ou l'épreuve t'ont jeté bas, si tu as sombré dans quelque bas-fond de souffrance, ne t'afflige point, car c'est cela que pourront t'atteindre la divine tendresse et la suprême bénédiction, parce que tu es passé au creuset des douleurs purificatrices. À toi, les ascensions glorieuses. Tu es au désert, eh bien écoute la voix du silence. Le bruit des paroles élogieuses et les applaudissements du dehors avaient réjoui ton oreille. Mais les voix du silence réjouiront ton âme en réveillant en toi l'écho des profondeurs, le chant des harmonies divines. Tu marches en pleine nuit, eh bien recueille les trésors sans prix dans la nuit. Au grand soleil s'illuminent les routes de l'intelligence, mais dans la nuit, aux clartés blanches se trouvent les sentiers cachés de la perfection, le secret des richesses spirituelles. Tu suis la voie des dépouillements, elle conduit vers la plénitude. Tu ne seras plus rien, tu n'auras plus rien, tout te sera donné. Quand tu n'auras plus rien, tout te sera donné. Car pour ceux qui sont sincères et droits, c'est toujours du pire que commence le meilleur. Chaque grain que l'on met en terre en produit mille. Chaque coup d'aile de douleur peut être un essor vers la gloire. Et quand l'adversaire s'acharne sur l'homme et tout ce qu'il fait pour l'anéantir, grandit. Écoute l'histoire des mondes, regarde le grand ennemi qui semble triompher. Il se jette dans la nuit les êtres de lumière et la nuit se remplit d'étoiles. Il s'acharne sur l'œuvre cosmique, il attente à l'intégrité de l'empire sphérique, rompt son harmonie, le divise, le subdivise, disperse sa poussière aux quatre vents de l'infini. Et voici que cette poussière se change en semence dorée, fécondant l'infini et le peuplant de mondes qui désormais, autour de leur centre éternel, graviteront dans l'orbite élargie de l'espace. En sorte que la division même produit une unité plus riche, plus profonde. Et en multipliant les surfaces de l'univers matériel, agrandit l'empire qu'elle devait ruiner. Il est beau, certes, le chant des sphères primordiales, bercées au sein de l'immensité, comme elle. Elle est plus belle encore et plus triomphale, la symphonie des constellations, la musique des sphères, la chorale immense remplissant les cieux d'un hymne éternel de victoire. Écoute encore, nul état n'est plus précaire que celui de l'homme quand sur la terre il fut séparé de son origine divine. Au-dessus de lui s'étendait la frontière hostile de l'usurpateur et aux portes de son horizon veillaient des geôliers armés d'épées flamboyantes. Alors, comme il ne pouvait plus monter à la source de la vie, cette source jaillit en lui, comme il ne pouvait plus recevoir d'en haut la lumière. La lumière resplendit au centre même de son être. Comme il ne pouvait plus communier avec le transcendant amour, cet amour, ce fut le Logos. Il s'offrit, choisissant chaque être terrestre, chaque moi humain, pour demeure et pour sanctuaire. Voilà comment, dans cette matière méprisée mais féconde, désolée mais bénie, chaque atome renferme la pensée divine. Chaque être portant lui, le divin habitant. Et si nul dans tout l'univers n'est aussi infirme que l'homme, nul non plus n'est plus né aussi divin. Et si nul dans tout l'univers n'est aussi infirme que l'homme, nul non plus n'est aussi divin. En vérité, dans l'humiliation se trouve le berceau de la gloire. Mère, parole d'autrefois, le 28 avril 1912. Merci, Mère. Merci, Sri Aurobindo. Je vous offre ce texte des paroles d'autrefois de Mère pour cette fin d'année à tous les Orvilliens, à l'Inde et au monde. Ganga Lakshmi, House of Mother Ajanda, Savitri Bhavan. Merci, Sri Aurobindo. Merci, Mère.